RCF.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, sur RCF Anjou, dans l'émission Parole protestante, au micro Delphine Spindler. Le protestantisme, basé sur les notions de liberté et de responsabilité, regroupe une multitude d'idées, de courants, de façons de vivre la foi et de vivre une relation directe à Dieu. Parfois inconnu, parfois mal connu, le protestantisme libéral fait partie de ces protestantismes. Pour en savoir plus, nous accueillons aujourd'hui Monsieur le pasteur James Woody. Bonjour Monsieur Woody.
Bonjour.
Vous êtes pasteur de l'Église protestante unie de France à Montpellier et vous présidez Évangile et Liberté, l'association du protestantisme libéral. Bienvenue sur RCF.
Merci à vous.
Et pour commencer, pourriez-vous définir ce qu'est le protestantisme libéral ?
Alors, je pourrais essayer, mais ce serait en quelque sorte malhonnête de ma part, parce que le protestantisme libéral a tendance à refuser les définitions. C'est-à-dire, le protestantisme libéral, c'est cette partie du protestantisme qui a comme critère principal la liberté, et la liberté souffre mal des définitions qui ont tendance à enfermer, à figer, à fixer le sens ou les identités. Donc j'aurais peut-être tendance à dire que le protestantisme libéral se caractérise par son amour un peu immodéré de la liberté, ce qui en fait un protestantisme qui a tendance à relativiser les doctrines, par exemple, à considérer que la foi prime sur les doctrines, c'est-à-dire sur les définitions de la foi, justement, sur les manières d'exprimer Dieu, d'exprimer l'Église, d'exprimer l'homme, qui pourrait, au fil des siècles, s'enquister en quelque sorte. Et ce que nous avons à cœur, c'est de faire en sorte que la foi chrétienne soit toujours dynamique, qu'elle soit au service du vivant. Est-ce que ça vous éclaire un peu ?
Oui, quand vous dites la foi, en fait, c'est la foi que chacun vit.
Oui, c'est-à-dire que c'est aussi une caractéristique du protestantisme libéral, c'est d'être très attaché à l'individu. C'est quelque chose qui a été développé, à vrai dire, dès Martin Luther et puis Jean Calvin, pour prendre les deux grands réformateurs. Quand finalement Martin Luther dit que ce qui compte, c'est la position du croyant face à Dieu, sans intermédiaire, il utilise l'expression « coram Deo », c'est vraiment être en quelque sorte dans un cœur à cœur avec Dieu, c'est bien pour dire que l'individu est vraiment l'instance qui compte dans sa conception de ce qu'est le christianisme. On n'a plus besoin de l'Église ou du clergé comme intermédiaire indispensable, c'est chaque personne qui est directement concernée par la notion de Dieu. Et de ce point de vue-là, la foi est du coup individualisée. Et c'est la raison pour laquelle on est assez soucieux qu'il y ait une sorte de pluralisme, un pluralisme théologique qui puisse s'exprimer, parce que il n'y a pas une foi qui devrait être identique pour l'ensemble des fidèles. Chacun est amené à apporter sa propre réponse par rapport à la question de Dieu.
Oui, et je suppose, en laissant la liberté aux autres d'avoir leur propre réponse aussi personnelle.
Oui, la liberté sera pour nous toujours quelque chose de fondamental. L'idée est la suivante, c'est que chacun est appelé à avoir une expérience personnelle du sacré, du divin, mais également de la traduction dans sa vie quotidienne de cette expérience du sacré. Et donc, chacun va développer en quelque sorte sa propre religion à partir des éléments fondamentaux que l'on retrouve dans le protestantisme, c'est-à-dire la fréquentation des textes bibliques, c'est-à-dire l'expérience de la grâce, et puis c'est aussi avec le principe de la foi seule, l'idée selon laquelle chacun est appelé à développer sa propre langue religieuse. Moi, j'aime bien cette idée que les religions sont comme des langues qui permettent d'exprimer ce qu'il y a de plus intime en soi. Et finalement, nous rendons compte que nous pouvons, vous et moi, parler le français, mais nous allons avoir chacun notre propre langue, avec chacun un vocabulaire spécifique, avec des tournures grammaticales, une rhétorique qui nous est propre et qui constitue notre personnalité. Eh bien, c'est cela que nous nous attachons à faire vivre et à déployer, que chacun puisse exprimer sa sensibilité religieuse.
Quelle a été l'histoire de ce, vous dites un courant, un mouvement, ou comment vous, quel mot vous utiliseriez pour le protestantisme libéral?
Alors, nous utilisons volontiers le mot de mouvement parce que c'est quelque chose de dynamique, comme je vous le disais, ça nous tient à cœur. Et puis, c'est une façon de dire que le protestantisme libéral n'a pas commencé avec nous, par exemple. Je serais tenté de dire que le protestantisme libéral se trouve déjà dans les textes bibliques. On pourrait voir dans la figure de Jésus la figure d'un libéral qui proteste contre le fait que, par exemple, les prêtres de l'époque accaparent le religieux, en font un commerce, ou que les pharisiens ont tendance à confisquer l'expression de la volonté de Dieu. Eh bien, Jésus, par sa façon d'être croyant, proteste pour la liberté, et c'est l'apôtre Paul qui le mettra en texte. Ensuite, si on veut être un peu plus rigoureux sur le plan historique, on pourrait dire que quelqu'un comme Sébastien Castellion, qui est contemporain de Jean Calvin, est une figure importante du protestantisme libéral. On le connaît parce que dans l'affaire Servet qui a opposé justement Sébastien Castellion et Jean Calvin au sujet de quelqu'un qui disait que le dogme de la Trinité, on ne devait pas en faire un article de foi, cet homme a été condamné au bûcher et Sébastien Castellion a dit « Tuer un homme, ce n'est pas défendre une doctrine, c'est tuer un homme ». Et c'était une façon de relativiser le poids et l'importance de la doctrine par rapport à la vie, par rapport à l'existence. Et donc, relativiser les doctrines qu'on imaginait être très sacrées, ça, c'est effectivement une approche assez libérale. Il a d'ailleurs écrit un livre qui est très significatif à l'époque, c'est « L'art de douter et de croire ». Vous imaginez, l'art de douter, le doute comme un outil théologique. Et bien ça, c'est quelque chose aussi de très très libéral, en quelque sorte.
Et surtout, Sébastien Castellion, c'est 16e siècle, c'était peu répandu comme façon de voir à l'époque.
Je me souviens d'une pancarte qui tendait à finalement expliquer ou légitimer l'assassinat de Michel Servet en disant qu'il avait été victime de l'intolérance de l'époque. Eh bien non, à l'époque, il y a quelqu'un comme Sébastien Castellion qui dit que le doute est un instrument du savoir théologique et qu'il est hors de question de condamner à mort un hérétique, par exemple. Et que l'hérésie, finalement, est porteuse d'une vérité qui, jusque-là, pouvait nous faire défaut. Et dans une certaine mesure, on pourrait peut-être considérer que le protestantisme libéral joue un peu le rôle d'éclaireur dans la pratique théologique, dans la pratique religieuse, c'est-à-dire essayer de nouvelles voies, emprunter de nouveaux chemins, qui peut-être d'ailleurs seront par la suite des chemins tout à fait orthodoxes. Et puis pour continuer un peu sur le fil historique, je dirais que c'est quand même le XVIIIe siècle avec la philosophie des Lumières, avec la question du libre examen, de la liberté de conscience, notamment avec Jean-Jacques Rousseau en France, qui est le moment où le protestantisme libéral trouve son expression la plus assurée et qui va conduire finalement ce mouvement à exister en tant que tel. À la fin du XIXe siècle, en 1870 par exemple, 1872, il y a un synode en France qui finalement va poser un peu les bases de ce clivage entre orthodoxes d'un côté, libéraux de l'autre, il y a même des paroisses qui vont devenir clairement libérales, clairement orthodoxes, et ensuite finalement le XXe siècle va être le déroulement de cette lutte entre deux approches du protestantisme, l'une assez concernée par l'expression exacte de la vérité, ça va être l'orthodoxie protestante, et puis au contraire, le protestantisme libéral, plus attaché aux nuances, plus attaché aux questions contemporaines, plus attaché aussi à être compréhensible pour celles et ceux qui ne seraient pas nés dans le bain protestant.
Ouais. Est-ce que ce clivage, il est obligatoire ou est-ce qu'il peut être dépassé? Je veux dire, est-ce que effectivement, du coup, par ces idées de liberté, le protestantisme libéral, ça pourrait englobée. On pourrait décider, vous voyez, d'avoir des idées qui paraissent orthodoxes, mais dans un cadre de... dans une démarche de protestantisme libéral.
Alors, moi, ce que je constate, par exemple, dans le mouvement du protestantisme libéral, c'est qu'une certaine orthodoxie se développe, une orthodoxie libérale, qui consiste à dire, ça c'est libéral, ça ce n'est pas libéral. Et bien, vous voyez, c'est une sorte d'orthodoxie que je trouve assez paradoxale, qui m'amuse, et puis qui peut être aussi inquiétante.
Dans le meilleur des cas, oui.
Ouais,
qui amuse dans le meilleur des cas, oui.
Oui, oui. Parce que quand c'est fait avec légèreté, avec humour, une sorte de dérision, ça va. Mais quand ça devient vraiment un critère d'exclusion, alors là, ça devient non seulement pénible, mais en plus contraire aux idées que nous défendons. Moi, je ne suis pas en fait pour la défense à tout prix du libéralisme. Je pense que le libéralisme, c'est un mouvement, c'est un rapport aux religieux, c'est un rapport à la vie aussi, et ça ne devrait pas devenir une sorte de case qui dirait que ceux qui sont à l'intérieur ont raison, par opposition à ceux qui seraient à l'extérieur. Je pense que on peut être, par exemple, comme vous le disiez, à la fois orthodoxe au sens attaché à la précision, désireux de ne pas faire fi de la tradition, mais d'un autre côté, ne pas être enfermé dans un esprit d'orthodoxie. Et en fait, le libéralisme n'est pas tant opposé à l'orthodoxie qu'à l'esprit d'orthodoxie, c'est-à-dire à ce qui pourrait finalement conduire à une sorte d'intégrisme ou à une sorte de fanatisme. De même que dans Évangile et Liberté, il y a des évangéliques libéraux ou des libéraux évangéliques. Et ça, je trouve que c'est intéressant parce que c'est rappeler notre attachement intrinsèque à la lecture et à l'interprétation de la Bible, mais justement, la Bible non pas comme parole de Dieu dans la lettre, mais comme moyen de pouvoir organiser cette rencontre entre Dieu et le croyant.
Merci beaucoup. Nous allons faire une petite pause musicale avec les Rolling Stones. RCF Anjou, c'est après ce titre des Rolling Stones, I'm Free, que nous continuons notre découverte du protestantisme libéral en compagnie de James Woody, pasteur et président d'Évangile et Liberté, l'association du protestantisme libéral. Est-ce que maintenant vous pourriez nous expliquer un peu ce que ça peut apporter comme mouvement, comme façon de voir la vie par rapport aux problématiques qu'on peut rencontrer actuellement dans la société, dans l'Église, dans la vie.
Oui, alors oui, bien sûr. Il me semble que nous vivons une époque qui est, par exemple, marquée par de nombreux clivages et même des tensions très fortes entre communautés religieuses. On comprend que la place de l'islam en France pose problème, mais à vrai dire, la place du catholicisme n'est pas toujours bien acceptée par tout le monde. Et de façon générale, il y a la question de la laïcité qui semble être à nouveau un problème alors qu'elle est censée être une solution. Le protestantisme libéral, parce qu'il considère qu'aucune religion ne possède en son sein la totalité de la vérité, et je dirais non seulement bien disposé, mais aussi bien équipé pour engager des dialogues fructueux qui vont justement considérer que l'autre a aussi une tradition, a aussi une réflexion qui va m'être profitable. Autrement dit, le protestantisme libéral, en considérant que chaque courant religieux peut être dépositaire d'une part de la vérité de l'homme, par exemple, va permettre de pouvoir dépasser les clivages et voir chez l'autre non pas une menace ou un adversaire, mais au contraire une opportunité d'en savoir un peu plus et de mieux se connaître.
Oui, parce que la question finalement de qui a raison, vous voyez, en le disant schématiquement et en généralisant, c'est peut-être justement cette question-là qui a dépassé, parce que finalement, finalement, on trouve pas de réponse à cette question-là parce qu'il y a sûrement, c'est peut-être pas la bonne question à se poser. Et effectivement, et dans quelle mesure le protestantisme libéral et les courants qui peuvent se dire que il peut y avoir de la liberté, il peut y avoir de la diversité, est-ce que ça permet pas, en posant autrement la question, c'est-à-dire pas qui a raison, qui a tort, mais comment faire pour que, pour pouvoir en discuter tous ensemble et pouvoir trouver un, bah, quelque chose, un terrain où on peut parler tous de ça, est-ce que justement, c'est, en décalant cette question-là, elle n'apporterait pas un début de solution?
Oui, absolument. Il y a un exemple qui est assez intéressant et qui montre qu'il peut y avoir au sein du christianisme finalement deux attitudes assez opposées à l'égard des autres croyants, des autres religions. C'est ce que l'on fait de cette parole de Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Certains vont dire « Cela nous invite à comprendre que Jésus est le passage obligé pour accéder à la vérité, accéder au Dieu véritable. Et donc, il s'agit de convertir les juifs, les musulmans, peut-être les bouddhistes, a fortiori les athées, au christianisme. Sinon, ils seront perdus. Sinon, ils n'auront jamais accès à la vérité. » Nous, nous le comprenons d'une autre manière. C'est-à-dire que Jésus se présente comme chemin pour ceux qui se reconnaissent comme chrétiens. Donc, qui se reconnaissent comme ses disciples. Mais ce qui est intéressant, c'est de dire que Jésus ouvre des chemins plutôt qu'il est le passage obligé. Et donc, le protestantisme libéral, en décalant un petit peu, effectivement, sur non pas qui a la vérité à coup sûr, mais comment faire pour accéder à cette vérité, ce qui passe aussi par le chemin de l'autre, peut d'être une façon de dédramatiser et de commencer à répondre à cette question, comme vous le disiez. Et puis, il y a aussi le fait que les religions ne sont pas seules détentrices de ces petits fragments de vérité. Je veux dire par là que le protestantisme libéral, dès le XVIIIe siècle, a engagé des dialogues avec la culture, avec les sciences, avec, en fait, tout ce qui n'était pas la théologie au sens strict du terme. C'est par exemple ce qui a permis d'engager des dialogues intéressants avec l'archéologie et l'histoire pour mieux comprendre quelle était la nature du texte biblique, qui n'étaient pas eux-mêmes des textes d'histoire ou des textes scientifiques. Le récit de la Genèse, c'est avec le récit de la création, ce ne sont pas des thèmes, ce ne sont pas des textes d'astrophysique en quelque sorte. Et le fait qu'il y ait aussi un dialogue avec la culture, de considérer que la vérité peut s'exprimer à travers la poésie, à travers le théâtre, à travers les arts, et que ce n'est pas l'exclusivité de la religion, je pense que ça permet aussi de dépasser les clivages et de pouvoir avoir une société un peu plus fraternelle et un peu plus respectueuse les uns des autres.
Oui, mais parce qu'en fait, c'est effectivement... Ça dépasse le positionnement religieux. C'est un positionnement existentiel, mais qui peut toucher même toutes les parties, les parties de l'existence de chacun. Voyez, pouvoir se dire que finalement il n'y a pas un chemin qu'il faut emprunter pour y arriver, pour avoir la vérité, pour réussir, mais que en reculant un tout petit peu, on peut se rendre compte que plein de chemins s'ouvrent et que cette possibilité est laissée aux personnes de choisir, voilà, quel chemin, à quel moment, et que c'est pas axé, fini, forcément, on choisit cette idée-là ou cette doctrine-là ou cette idéologie-là ou même cette façon de vivre-là. Et effectivement, le protestantisme libéral, j'ai la sensation qu'il permet ça. Il permet de dire, moi, je crois quelque chose là, cet instant-là, par rapport à ce que j'ai lu. Alors, on va rester par rapport à la religion, mais ça pourrait être mis par rapport à plein de choses. Mais les autres peuvent croire différemment.
Et ils peuvent avoir raison contre moi.
D'accord. Ouais. Et ce que j'ai un peu de mal à comprendre, c'est pour quelle raison, du coup, ça paraît, effectivement, comme vous disiez tout à l'heure, pour quelle raison est-ce que, du coup, on se retrouve enfermé dans cette image de protestantisme libéral? Alors que, justement, ça, je veux dire, c'est pas ce que ça dit, vous voyez?
Ouais, oui, mais c'est parce que on aime bien cataloguer les gens, c'est rassurant pour soi-même de pouvoir trouver aussi éventuellement un ennemi, donc pouvoir dire celui-ci c'est un orthodoxe, celui-ci c'est un libéral, c'est une façon de pouvoir se positionner, de commencer à exister. Mais ce qui est important, c'est que on ne soit pas enfermé, on ne soit pas condamné à n'être que les esclaves d'une étiquette. Je dirais même, c'est vrai pour le protestantisme. Le protestantisme, c'est pas une fin en soi. Le protestantisme est là pour servir le christianisme, et le christianisme n'est pas non plus une fin en soi. Le christianisme est là pour servir la vie portée à sa plénitude. Et donc, si on cesse d'avoir un protestantisme qui porte le nom de protestantisme, c'est pas du tout un drame. Si le christianisme cesse d'être le christianisme que l'on connaît aujourd'hui, mais que dans le monde on continue à s'intéresser à ce qu'est vraiment l'être humain, alors c'est pas un drame. Ce sont effectivement des chemins qui ont fait leurs preuves, qui sont assez efficaces, qui ne sont pas non plus l'accomplissement. On a encore beaucoup à faire. On voit que l'histoire du christianisme a été jonchée d'horreurs, et donc c'est pas la voie royale non plus. Je retiens aussi de ce qu'est le protestantisme libéral, qu'il y a à la fois la relativisation des institutions et puis le souci d'une critique permanente. Ça va dans le sens de ce que vous disiez, c'est-à-dire que si on commence à être les esclaves ou à être condamnés à être à perpétuité dans une forme religieuse, en fait, on n'est plus dans un registre de liberté. Je vois par exemple des personnes qui me disent à la fin d'un mariage « Ah, si j'avais pas été baptisé catholique, je serais protestant. » En fait, qu'est-ce qui empêche d'être protestant? Qu'est-ce qui oblige à demeurer dans une identité qui ne nous correspond plus? Quand on avance sur le chemin de la vie, on fait des découvertes. Et ces découvertes, il faut en faire quelque chose, elles doivent nous enrichir, ça augmente notre équipement, notre pactage. Et si on se rend compte qu'on a fait un détour et qu'on s'est orienté d'une mauvaise façon, eh bien, réorientons-nous, il n'y a aucun problème.
Bien sûr.
Et quand on dit l'Église réformée est toujours à réformer, c'est bien pour se dire que dans l'histoire, les synodes ont pu se tromper, c'est ce que disait Luther. Les conciles ont pu se tromper, il n'y a pas d'infaillibilité.
Oui, et puis à chaque carrefour, plusieurs chemins s'ouvrent. Vous voyez, forcément, il n'y a pas une fois qu'on est parti sur une voie, on n'est pas obligé de rester dans cette voie-là. On peut aussi faire le choix, de changer de chemin, parce qu'il y en a d'autres qui s'ouvrent.
Mais vous avez tout à fait raison, c'est exactement ce que l'on voit dans les textes bibliques. Il y a des moments où les personnes se trouvent à la croisée des chemins, et puis il y a un messager de la vie qui est là, et qui va les aider à s'orienter. Et peut-être à bifurquer. Moïse, par exemple, fait un petit détour pour aller du côté du buisson ardent. Ça montre que le chemin sur lequel on était prêt à aller jusqu'au bout de sa vie peut ne pas être le meilleur des chemins. Et donc, être disponible à ce que l'autre, à ce que l'altérité, à ce que l'étrangeté peut m'apporter, c'est finalement un gage de salut, c'est-à-dire c'est ne pas passer à côté de sa vie. Et c'est la raison pour laquelle je trouve que le critère de la liberté est assez intéressant pour essayer de mener une vie bonne. Je le dis assez calmement parce que la vie bonne, c'est un peu à la Emmanuel Kant, mais pour faire en sorte que le monde ne se défasse pas trop rapidement, disons. Essayer de pouvoir retisser avec les autres qui sont eux-mêmes équipés d'éléments qui jusque-là n'étaient pas dans mon bagage et qui pourtant ont leur intérêt et leur valeur.
Je vous remercie beaucoup. C'est sur cette belle conclusion que nous devons malheureusement clore cette émission sur le protestantisme libéral. Merci Monsieur Houdi pour votre éclairage et vos explications. Au revoir, à bientôt dans Paroles protestantes sur RCF Anjou.